Vous êtes sur RTL. Pascal Pro sur RTL.
Benjamin Sportouche est là, c'est le chef du service politique d'RTL. Je vais l'interroger dans une seconde parce qu'il y a un début de polémique avec un dîner de travail hier soir à l'Élysée avec 11 personnes, nous dit-on, alors qu'on nous demande d'être 6 et avec quand même tous les responsables de l'État. Donc moi je vais poser la question, est-ce bien raisonnable d'avoir tous les responsables de l'État dans un dîner de travail alors que ces gens peuvent se parler en visio ? Parce qu'aujourd'hui tous ces gens, effectivement, sont qu'à contact. Mais Céline était avec nous et Céline voulait d'abord réagir.
Oui, bonjour.
Rebonjour.
Rebonjour. Je suis consternée d'entendre ça. On nous fait faire du télétravail. On nous impose de ne pas être plus de 6 pour des fêtes quand même qui sont très importantes. Et eux, chefs de l'État, qui devraient montrer l'exemple, qui nous imposent tout un tas de contraintes, se permettent de se réunir à 11, de ne pas respecter les gestes barrières et d'attraper le Covid.
Alors c'est le point qui avait révélé cette information, Benjamin Sportouche. Mmh. Est-ce que vous avez confirmation des informations de nos confrères du point ?
Tout à fait. Il y avait donc une dizaine de personnes rassemblées autour du chef de l'État hier soir à l'Élysée, dans la salle des fêtes. Alors l'un des participants m'a raconté un peu comment ça s'était passé. Ils étaient donc dans la grande salle des fêtes, hein, l'une des plus grandes pièces, la plus grande pièce de l'Élysée, et avec une table de 20 mètres de long. Donc ils pouvaient garder leur distance, des distances environ 3 mètres entre chaque convive. Ils avaient chacun leur micro pour pouvoir parler au président. Et petite anecdote, mais qui a son importance, il n'y a plus de service à la française. C'est-à-dire que vous savez que normalement, ce sont les maîtres d'hôtel qui viennent et qui vous apportent le plat et vous servez avec des couverts. Là, c'est un repas à table avec chacun une assiette individuelle. C'est important parce que, bien évidemment, ça évite les contaminations. Alors, à ce dîner, il y avait notamment Richard Ferrand, le président de l'Assemblée nationale, le patron de La République En Marche, Stanislas Guérini, François Bayrou, Christophe Castaner, le chef de député de La République En Marche dorénavant, et puis bien sûr le président de la République et quelques-uns de ses conseillers, et ont été évoqués beaucoup de thèmes d'actualité. Il les a sondés sur plusieurs sujets, que ce soit la proportionnelle, que ce soit ça je pourrais vous en dire un mot si vous voulez sur le fond, sur les retraites. Donc il y a bien eu ce dîner qui n'est pas une exception. Il y en a eu quelques-uns ces derniers temps, c'est assez régulier, le président de la République les convoque. Voilà, c'est un peu le fonctionnement du président de la République.
Mais on ne peut pas d'un côté demander aux Français d'être 6,
exactement,
de recommander en permanence ou d'infantiliser, parce que c'est ce qu'on entend souvent à ce micro durant les auditeurs ont la parole. On ne peut pas demander aux Français d'être 6 à table et de faire un dîner à 11 à l'Élysée avec les plus hauts responsables de France. Enfin, pourquoi ces gens ne sont-ils pas en visio hier soir ? En plus, je vous rappelle qu'on était en couvre-feu hier soir. C'est perçu dans l'opinion publique comme des privilèges ou une manière de fonctionner qui n'est pas la même que celle du quidam qui nous écoute.
Mais écoutez, je pense que c'est des questions qui seront posées aux ministres. On verra comment ils réagiront. L'exécutif, il y a encore un conseil des ministres lundi. Ce sera le dernier conseil des ministres de l'année. On imagine bien que le porte-parole du gouvernement sera interrogé à ce moment-là. Et d'ici là, ceux qui étaient présents à cette table pourront, eux, s'exprimer.
Mais ils sont tous qu'à contact, même s'il y a 3
Alors,
mètres...
Non, exactement. Ils ne sont pas tous qu'à contact. Quand D'accord. il y a une telle distance, ils ne sont pas considérés comme qu'à contact. Il y avait eu un autre déjeuner... Celui-ci, c'était mardi midi. Alors, celui-ci avait été annoncé avec les présidents de groupe des assemblées. Alors, est-ce que le...
Mais Jean Castex, il est à contact pourquoi, par exemple ?
Alors, Jean Castex, est-ce qu'il était... Alors, il a vu le président de la République avant le Conseil des ministres hier.
Oui, mais il a son masque quand il le voit.
Oui, mais là, il était peut-être peut-être quand ils sont à moins d'un mètre cinquante, peut-être qu'il y a un moment donné, ils ont eu moins d'un mètre cinquante, c'est possible. Et là, par précaution, ils se sont parlé. Mais... Par exemple, pour vous donner un exemple très concret, est-ce qu'il y a un deux poids deux mesures quand mardi midi il y a un déjeuner à l'Élysée avec les présidents de groupe de l'Assemblée nationale et Richard Ferrand également autour du président? Là, c'est le fonctionnement normal des institutions, donc ils sont plus de 6. Vous voyez? Donc voilà, ça fait partie de la consultation. Et les présidents de groupe de l'Assemblée disent nous sommes contents d'être là parce que le président de la République nous consulte. Hier, c'était un dîner politique. Et là, on dit il y a trop de monde autour de la table. Oui, il y avait la veille dans la même salle, mardi midi, des représentants de l'Assemblée nationale, des représentants des Français qui étaient autour d'Emmanuel Macron pour aborder les sujets d'actualité.
Sauf que là, ce n'est pas institutionnel. Hier, moi, la liste des participants, c'est Stanislas Guérini, oui, c'est Christophe Castaner, c'est François Bayrou, c'est Patrick Mignola, c'est Alexis Kohler, c'est Stéphane Séjourné, c'est Thierry Solaire. En fait, c'est un dîner... Pardonnez-moi, mais ce n'est pas un dîner qui est officiel, alors, qui n'a pas une vocation institutionnelle.
La question peut se poser, est-ce qu'il faut, dans ces cas-là, quand ce n'est pas institutionnel, que ça se fasse à distance? En l'occurrence, là, non, ce n'était pas à distance, ils étaient autour de la table. L'Élysée n'a pas encore, ne s'est pas prononcé sur cette question, on va les interroger. Mais en effet, ce qu'il pourrait vous être répondu, j'imagine, Pascal, c'est que c'est aussi dans le cadre du fonctionnement de la démocratie et que la visioconférence à ses limites. Mais c'est une question qui se pose et on attendra leur réponse.
Bon, restez avec nous en tout cas parce qu'on va marquer une première pause. Mais effectivement, il y a l'exemplarité que soulignait Céline qui évidemment va être pointée du doigt immédiatement. Et je le répète, on nous demande d'être 6 à table. Donc lorsqu'on apprend que le président de la République fait un dîner à 11, ben forcément ça nous fait réagir. À tout de suite.
Pascal Pro, les auditeurs ont la parole sur RT.
Jusqu'à 14h30,
les auditeurs ont la parole sur RTL.
Avec Pascal Pro.
13h09, Laurent Tessier, bonjour.
Bonjour Pascal, bonjour à tous. Régis, sur la page Facebook de l'émission, réagit à ce dîner politique mercredi soir à l'Élysée. Bon, même si c'est un dîner de travail, je suis désolé. Savoir qu'ils étaient 11 me choque. Que nos politiques soient exemplaires, demande encore Fred. Bon là, ne me demandez pas d'être 6 à table à Noël, rajoute Aurélie sur nos réseaux sociaux. J'ai un très grand salon également, on sera 8. Voilà, c'est tout. Georges s'interroge. Emmanuel Macron va-t-il se faire soigner par le professeur Didier Raoult est marre de nos politiciens, lance Gabriel, entre certains qui ne respectent pas le port du masque, d'autres la distanciation. J'espère qu'ils vont tous réfléchir. Un point, c'est tout.
Bon, Céline, on la remercie. Elle est mère au foyer. C'était notre première auditrice. Merci beaucoup, Céline. Mais restez avec nous parce que Xavier veut intervenir et peut-être est-il sur la même longueur d'onde que vous. Bonjour, Xavier.
Bonjour, Pascal. Bonjour aux auditeurs. Vous avez oublié de poser une question, Pascal.
C'est possible.
Début d'émission. Faut-il que Brigitte Macron soit prioritaire pour se faire vacciner ?
Oh non, écoutez pas ça. Franchement, c'est pas délicat. Non, vraiment, Xavier, moi, ça me fait pas rire. Voilà, je trouve que c'est pas rire. C'est pas drôle. Laissez Brigitte Macron hors de cela.
Selon l'humour de chacun.
Non, mais c'est pas rigolo, Xavier. Essayons d'avoir un certain niveau quand même de discussion. C'est pas drôle.
Très bon niveau, vous inquiétez.
Mais non, c'est pas drôle. D'abord, c'est indélicat. Franchement, je trouve que c'est indélicat.
Mais
parce que c'est indélicat.
Il est délicat avec les Français, monsieur Macron. Il est pas du tout délicat.
Eh bien, laissez Brigitte Macron. Moi, je vous ai dit ce que j'en pensais. Allez, avançons. Oublions. Alors, on dit qu'on oublie et que Macron, c'est pas bien ce que vous avez dit.
Est-ce que Macron a fait « faites ce que je dis et pas ce que je fais » ?
Ça, c'est une vraie question.
Où est-ce qu'il s'est bien protégé ?
Bah, écoutez,
alors,
ça, c'est une vraie question.
Et qu'il a respecté les gestes barrières, ça veut dire qu'il n'y a pas de risque zéro. S'il n'y a pas de risque zéro, à quoi ça sert de confiner tout le monde ?
Bah, écoutez, ça, vous voyez, c'est plus intéressant, ça, ce que vous dites, Xavier.
C'était mon introduction, Pascal, pour rire un petit peu dans cette période.
Non, mais ça, c'est vrai. Est-ce que il doit, hier, faire ce dîner? D'abord, est-ce qu'il a respecté les gestes barrières?
On nous assure, que les gestes barrières ont été respectés, qu'il y avait une distance, comme je vous disais, de 3 mètres entre les convives.
C'est pas lié à ce dîner qu'il a attrapé le Covid. Il y a une période d'incubation de plusieurs jours. Donc
tout à fait. Non, mais il est cas contact. D'ailleurs, je crois que l'Union européenne va produire dans quelques minutes un communiqué, si ce n'est déjà fait, disant que les 27 chefs d'État seraient cas contact.
Ah, magnifique.
Bah, en tous les cas, pour l'instant, il y a eu l'OCDE, parce qu'il y a eu vous savez que l'OCDE, des chefs d'État étaient présents lundi. Donc, oui, en cascade, ça peut avoir cet effet, puisque vous avez vu que le Premier ministre espagnol, par exemple, s'isole parce qu'il a été proche d'Emmanuel Macron. Alors, tout ça, ce sont des principes de précaution qu'on demande aux Français. Mmh. Donc, là, pour le coup, les chefs d'État le font. Ils font exactement ce qu'on demande aux Français.
C'est les chefs d'État qui seraient cas contact, alors qu'Emmanuel Macron, qui n'est pas d'ambiguïté, est, lui, positif.
Oui,
on sait d'ailleurs s'il a des symptômes.
Il n'avait pas de symptômes hier soir. D'accord. Quand il y a eu ce fameux dîner dont nous parlons, il n'avait pas de symptômes. Visiblement, ça s'est déclaré dans la nuit. C'est pour ça qu'il a été testé dès ce matin.
Qu'est-ce que vous appelez déclaré ? Il y a eu des symptômes
cette nuit ? Il y a eu des symptômes dont on ne connaît pas la nature.
Ah oui.
On ne connaît pas la nature.
D'accord.
Mais on ne sait pas exactement ce qu'il a eu, mais c'est pour ça qu'il a eu un test.
Mais aujourd'hui, ce matin, il a des symptômes.
Alors, l'Élysée a dit qu'il y avait eu des symptômes. Et encore une fois, c'est pour ça qu'on ne sait pas exactement la nature des symptômes. Il s'est donc fait tester. Mais hier soir, à ce dîner, il n'y avait pas. Tous les participants disent qu'ils n'ont rien vu.
D'accord. Voilà. Xavier, pour continuer, et peut-être.
Concrètement, c'est un nouveau chapitre à cette mascarade qu'est le Covid depuis mars dernier. Vous parliez du vaccin en début de semaine. Bon, le vaccin, c'est bien. On a fait des tests sur des personnes qui ont moins de 55 ans, qui ne sont pas les personnes les plus touchées mortellement par le virus. On va s'amuser à vacciner des gens qui ont plus de 80 ans dans les EHPAD, qui vont servir de cobayes, qui vont peut-être mourir à cause du de ce nouveau vaccin, mais on n'en saura rien.
Xavier, ne dites pas ça, Xavier. Je veux dire, le vaccin, ne soyons pas, comment dire, c'est une chance sans doute, le vaccin.
Mais non, ça tue quasiment personne, le Covid.
Non, mais ça, c'est un autre problème. Ça c'est encore un autre problème. Et vous savez, si vous suivez cette émission.
Il faudrait avoir des masques FFP2 pour protéger les personnes à risque.
Mais ne dites pas simplement que le vaccin va tuer des gens et ne dites pas on va s'amuser à vacciner parce que c'est une...
Dans le pays de... Il y aura forcément des gens qui vont mourir. Il y aura forcément des gens qui vont mal réagir au vaccin, comme tous les vaccins.
Dans le pays de Pasteur, comme dit l'autre, s'il y a une chose sur laquelle on pourrait se rejoindre, c'est au moins le vaccin. Dans cette période qui est compliquée, même moi, je suis très, comment dire, critique. Depuis des mois, vous le savez bien, sur ce qui se fait. Et Mais rejoignons-nous au moins sur le vaccin.
Non, mais je ne me ferai pas vacciner.
Mais vous faites ce que vous voulez. Mais rejoignons-nous au moins sur le fait que ce vaccin est une solution pour le monde.
Non. Il y a eu très très peu de mortalité dans le monde. Tout a été exagéré.
Je le répète, c'est encore un autre sujet.
Le confinement, c'est une exagération. Le confinement est une exagération.
On a eu ces discussions, Xavier, et on peut entendre cela. Mais je le répète, on peut faire confiance à la médecine si elle met sur le marché un vaccin qui est validé par toutes les autorités.
Qu'entendez-vous par la médecine,
Xavier? On va avoir du mal, Xavier. Donc, je vais vous souhaiter une bonne journée, Xavier. Et on va continuer, évidemment, avec Nathalie, peut-être. Bonjour, Nathalie.
Oui, bonjour, Pascal.
Et merci d'être avec nous.
Alors, moi, j'ai deux sentiments. Aujourd'hui, c'est la consternation et l'égalité. Donc, l'égalité, parce que je crois qu'après 9 mois où l'on a opposé les Français, les oubliés de cette crise, ceux qui travaillent, ceux qui ne travaillent pas, je ressens cela comme enfin un sentiment d'égalité, car lui aussi se retrouve avec ce fameux isolement à 8 jours de Noël, ne pas voir ses proches, etc. Donc oui, je ne cache pas que le jeu de cartes qui est posé remet un peu d'égalité dans cette crise, et comme on en manquait beaucoup, ben c'est pas mal. Et de la consternation, parce que depuis 9 mois, on nous conseille, on nous ordonne, on s'immisce dans nos vies intimes avec des gestes barrières qu'on respecte, le télétravail. On nous infantilise en nous demandant où est-ce qu'on met mamie manger sa bûche, en nous apprenant à ouvrir nos fenêtres. Et on apprend qu'il mange à 11, alors qu'on nous demande d'être assise dans 8 jours. Le jour où, en plus, l'OMS nous demande de porter le masque le jour de notre repas de Noël à 6.
Et j'ajoute donc, que c'était en couvre-feu hier soir.
Donc tout ça, le karma, c'est que ça tombe le jour où voilà, on trie dans notre famille qui on va voir dans 8 jours, on nous demande de porter le masque, et on apprend qu'ils font des repas comme ça.
Non, mais il y a un problème, vous avez raison, qui va se poser d'exemplarité, et je pense que cette affaire va laisser des traces, Benjamin Sportouche. Et on le voit d'ailleurs, nos auditeurs... sont quand même étonnés au minimum et agacés, voire très en colère.
Alors, en tous les cas, écoutez, c'est des traces, on verra. Ce que nous dit l'Élysée là, à l'instant, c'est que c'était un dîner de travail et que dans ces cas-là...
Mais était-il utile? C'est pas un dîner institutionnel, c'est un dîner de travail. Oui, mais c'est un dîner de travail avec des collaborateurs.
Vous savez bien que je ne vais pas juger de l'utilité ou pas. En effet, après, on laissera les auditeurs se faire une raison, se faire un avis, bien évidemment. Hein, ils en sont libres et chacun en est libre. Moi, je vous donne factuellement des éléments. Ce que dit l'Élysée, c'est qu'il s'agit d'un dîner de travail et les participants et que les gestes de barrière ont été respectés, la distanciation également, en parlant via des micros, ça je vous l'ai dit, dans une grande salle, la plus grande salle de l'Élysée, qui est également très aérée. Voilà, donc après, encore une fois, voilà ce que nous dit une source de l'exécutif pour justifier l'existence de ce dîner. Alors, ils disent c'est un dîner de travail, donc ça doit se faire en présentiel parce qu'il y a une interactivité qui est nécessaire. C'est pour ça qu'on le fait en présentiel comme la veille, le mardi midi, avec les présidents de groupe.
C'est pas la même chose. Oui,
alors, est-ce qu'il doit
c'est
y avoir
ça un, qui n'est pas la même
ça,
chose.
Deux poids, deux mesures.
Après, non, mais chacun le comprend.
Chacun se fera son idée. Moi, je vous dis factuellement ce qui s'est passé. Il y a plusieurs thèmes qui ont été évoqués, des thèmes majeurs, je vous le disais, comme les retraites et la proportionnelle. Donc,
c'est-à-dire la proportionnelle.
La proportionnelle dont le président de la République s'interroge toujours elle peut être une réponse justement à l'insatisfaction sur la représentation aujourd'hui. Est-ce que c'est quelque chose qu'il pourra annoncer dans le 31 décembre dans ses vœux? C'est possible. Il y a des choses qui sont en train de se décider. Le président de la République ne s'est pas fait une religion définitive sur la proportionnelle. Vous savez qu'il y a beaucoup de membres de sa majorité, notamment le Modem et François Bayrou, qui militent pour cela. Ils l'ont encore dit hier. dans cette réunion, dans ce dîner de travail. Voilà pour le fond. Pour la forme, encore une fois, chacun se fera son avis. Je vous ai donné un peu factuellement ce qui s'était passé.
13h18, une pause. Benjamin Sportouche, vous restez avec nous, bien sûr.
Les auditeurs ont la parole sur RTL.
Avec Pascal Pro. 13h, 14h30.
Les auditeurs ont la parole sur RTL.
Avec Pascal Pro.
Alors évidemment, vous réagissez fortement, hein, je dois dire. Et nous sommes avec Benjamin Sportouche, que vous pouvez interroger d'ailleurs, quel chef du service politique, au-delà du factuel qu'il nous donne, vous pouvez l'interroger. Nous sommes avec Sébastien. Je rappelle que le président de la République est positif. Je rappelle qu'il y a eu ce dîner hier qui fait polémique, avec 11 personnes autour de la table, même si les gestes barrières ont été respectés. La grande salle de l'Élysée, c'est une table de 20 mètres. Les personnes étaient à 3 mètres l'un de l'autre. Il n'empêche, c'est un signe que vous envoyez à l'opinion publique. Oui, hier soir, il y avait un dîner de 11 personnes à l'Élysée lorsqu'on demande aux Français d'être à 6 chez eux. Sébastien, bonjour.
Oui, bonjour Pascal.
Et bonjour, merci d'être avec nous. Votre analyse.
Écoutez, je vais faire que répéter ce qui a été dit un petit peu précédemment par les autres auditeurs et par M. Sportouche aussi. Bon, c'est sûr que c'était dans une salle aérée, avec des espaces entre chacun, tout a été respecté, mais enfin, est-ce qu'il était vraiment nécessaire de faire une réunion de ce type-là? Est-ce que c'était vraiment capital de la faire à ce moment-là de la journée? Est-ce que c'était nécessaire d'avoir tous ces gens autour de la table pour discuter de sujets qui, à mon sens, sont peut-être pas si capitaux? Est-ce qu'il y a besoin d'avoir ce genre de discussion, ce genre de réunion à un moment comme ça, où justement la courbe des cas ne fléchit plus, elle a une même stagne, voire elle augmente? Est-ce qu'ils sont bien informés? Est-ce qu'ils comprennent qu'ils sont observés, ils sont scrutés par les gens qui en ont plus que marre? Voilà, donc une fois de plus, on s'interroge, on se... Voilà.
Il ne s'agit pas ici pour moi, et vous l'avez bien compris, de me faire l'avocat de l'exécutif du gouvernement. Ce qu'ils disent, c'est qu'il s'agissait d'aborder le programme des réformes pour les 6 prochains mois. Ce qui n'est pas anodin. On va là ici s'entendre sur ce point-là, que ce soit encore une fois sur les retraites, ou que ce soit sur la proportionnelle, que ce soit sur le référendum sur l'écologie que Front de la République veut tenter de mettre en œuvre. Tout cela, en effet, peut nécessiter qu'il y ait des échanges, vous voyez, comme ça s'était fait encore une fois le mardi midi. Alors, je pense qu'aussi la démocratie, parce que vous savez, honnêtement, tous nos représentants...
Je comprends très bien, vous avez raison là-dessus, c'est la démocratie qui doit fonctionner, tout doit fonctionner de manière à peu près normale, mais est-ce qu'il n'y a pas un moyen de faire ça en distanciel, de faire ça avec de la visioconférence? Est-ce qu'il y a besoin d'être présent physiquement pour pouvoir discuter de ces sujets? C'est ça la question.
Mais vos questions sont légitimes.
Oui, vous avez raison.
Et je rappelle, c'est couvre-feu. Hein.
Mais en même temps...
Ce qui n'est pas...
Vous savez qu'il y a des dérogations aussi pour certaines professions. Nous en sommes, pour être très honnête, aussi bénéficiaires dans l'exercice de nos fonctions. Ça peut être aussi le cas pour nos représentants. Je dis juste que, par exemple, le Parlement continue de fonctionner aujourd'hui avec une distanciation, mais nos députés viennent et ils viennent en hémicycle. Il y a eu un cluster à l'Assemblée, donc aussi ces gens-là prennent des risques tout en étant, bien sûr, ils ont des masques, mais on ne sait jamais, on n'est jamais à l'abri de toucher un objet, une poignée, on le sait bien, qui a été contaminé par ailleurs. Donc oui, ils sont dans l'exercice de leur fonction, de l'exercice de la démocratie. Est-ce que tout cela doit être gelé? C'est une question, je ne pense pas que ce soit aussi la bonne solution.
Sauf qu'on a créé ces derniers temps, et notamment avec les réseaux sociaux, une sorte de société de l'autosurveillance, et qu'effectivement, aujourd'hui, puisque tout est transparent, on peut le regretter ou pas, mais l'opinion publique a accès directement aux informations. Et cette opinion publique découvre ce matin ce qui s'est passé hier soir à l'Élysée. Alors, on est avec Jean Garrigue, et c'était intéressant peut-être d'avoir votre avis de politologue et d'historien. Comment vous analysez ce qui s'est passé hier soir? Bonjour Jean Garrigue.
Bonjour. Je l'analyse d'abord comme un petit risque qui a été pris par le président de la République, mais comme tous les Français en prennent. On sait qu'il n'y a pas de risque zéro, finalement, qu'on peut respecter les gestes barrières, qu'on peut respecter les distanciations, et puis que, surtout dans un rôle de représentation, faut pas l'oublier, qui est celui du chef de l'État et d'organisation, il y a forcément des contacts sociaux qui se produisent. Je pense que on est un petit peu dans comme de, dans une tempête dans un verre d'eau, parce que c'est pas très très grave tout ça, ce qui vient de se passer. Je pense que j'ai entendu que le président de la République était au travail, en visio conférence. Il y a quelques cas contacts. Alors c'est vrai que ça frappe l'opinion parce que c'est le président de la République, mais on est dans un cas de figure, par exemple, beaucoup moins grave, je dirais, que ce qui avait touché le président Pompidou pendant les derniers mois de sa présidence, ou François Mitterrand, ou Jacques Chirac. Vous voyez, donc voilà, il faut un peu relativiser au regard de l'histoire.
Et bah, puis, écoutez, peut-être que Sébastien qui était avec nous peut vous répondre. Sébastien, que je salue. Moi, ce que je souligne en écoutant à la fois Benjamin et Jean Garrigue, et je mets ce que vous avez dit tous les deux en parallèle avec nos auditeurs. Je ne voudrais pas dire, Jean Garrigue, qu'il y a une forme de déconnexion chez vous entre l'historien, le politologue, l'homme entre guillemets qui évolue dans un certain cercle, et puis ce que disent l'homme de la rue. Mais je constate quand même que pour le moment, l'homme de la rue que j'entends depuis 13 heures, il dit c'est pas convenable. Et vous, oui, vous me dites tempête dans un verre d'eau. Je ne peux que le constater. J'ai peur que cette déconnexion qu'on souligne parfois entre certains et d'autres soit encore accentuée avec cette micro-affaire qui arrive là.
Première chose.
Mais j'étais sûr que vous me que vous me répondriez
merci, merci
ça.
Merci de nous faire le porte-parole. Hein.
Mais alors qui parle là?
Sébastien, pardon.
Ah, Sébastien. Alors, Sébastien, je vous propose d'écouter votre analyse. Allez-y, Sébastien.
Non, mais vous avez très bien résumé, Pascal, ce qui a été dit juste avant. En fait, la déconnexion, elle est un petit peu là. Quand on nous dit, bon, c'est pas grave, c'est une tempête dans un verre d'eau, c'est pas convenable, mais c'est pas très grave. Bah, écoutez, c'est pas l'impression qu'on en a quand on voit les médias, quand on regarde le soir Monsieur Salomon ou les rapports ou les discussions qu'a Monsieur Delfrécy, enfin j'ai du mal à comprendre où est-ce qu'on met le curseur, où est l'importance, où est la gravité de la chose, est-ce que finalement c'est pas très grave pour ceux qui sont aux commandes et puis là pour les autres si c'est très très grave, attention, falloir
Jean Garrigue va répondre parce que c'est Jean Garrigue qui disait tempête dans un verre d'eau.
Juste un point si vous permettez, Jean Garrigue, je rappelle juste que c'était un dîner de travail, on n'était pas dans un dîner de loisir, ou juste quand même sur cette position, c'est pas un dîner privé d'Emmanuel Macron avec ses proches pour éventuellement faire la fête ou festoyer ou passer un bon moment. On était dans un dîner de travail.
Vous avez parfaitement raison.
C'est quand même pas rien. Juste pour vous dire les choses de manière très transparente et le dire à Sébastien, nous ici à la rédaction de RTL, nous avons des conférences de rédaction où nous sommes masqués, mais où nous sommes plus de 6 dans l'intérêt du travail que nous produisons pour cette antenne. Oui, donc il y a des configurations aujourd'hui dans plusieurs métiers et nous en sommes aujourd'hui aussi, nous, la preuve dans les rédactions. Nous faisons attention, mais nous n'avons pas de risque zéro dans l'intérêt aussi du travail que nous produisons.
Sauf que nous ne sommes pas président de la République, niveau de l'État.
Pascal, c'était un dîner de travail. Maintenant, voilà comment ça nous est présenté. Et en effet, de ce qui me revient, on n'était pas là pour parler de la pluie et du beau temps. On était là pour aborder des réformes et des textes qui sont importants. Voilà juste la précision que je voulais apporter, sans apporter de jugement. Ensuite, chacun se fait son idée.
Argument, contre-argument, et c'est ça qui est intéressant dans ce débat. Jean Garrigue va rester avec nous, puisque Jean Garrigue, je vous ai un peu titillé. Bien évidemment, en parlant de déconnexion, vous allez pouvoir répondre tout de suite après la pause, parce que c'est Sébastien également qui pourra engager la conversation avec vous. À tout de suite.
Jusqu'à 14h30.
Les auditeurs ont la parole sur RTL. Pascal Pro.
Les auditeurs ont la parole sur RTL.
Jean Garrigue, vous le connaissez, il est historien et il est politologue. Et c'est intéressant, le dialogue avec Sébastien, parce que Jean Garrigue, je vous titillais tout à l'heure, volontairement, en disant bien est-ce sûr. Que vous pensez que vous n'allez pas incarner un discours de déconnexion quand vous parlez de tempête dans un verre d'eau ?
Alors, Jean Garrigue, tout d'abord, c'est un universitaire qui prend son train de banlieue comme tout le monde et qui ne vit pas dans sa bulle. Et j'ai commencé par dire qu'il y avait une imprudence qui avait été faite au plus haut niveau de l'État. Et à mon sens, elle devrait avoir valeur justement d'exemplarité. Ne faisons pas les erreurs qui ont pu être commises, même si ces erreurs sont compréhensibles. Et ce que je voulais dire, c'est que le président de la République, qu'on le veuille ou non, ou le Premier ministre, ce ne sont pas des Français tout à fait comme les autres, de par la charge qui est la leur, de par leur fonction, qui est une fonction très souvent de représentation. Et donc les risques de contamination me semblent accrus. Donc voilà, il y a donc là quelque chose qui...
Je ne mettais pas le terrain, moi, sur le risque de contamination, hein, sur le terrain de l'exemplarité, je le mets, le terrain. C'est ça.
Écoutez, l'exemplarité, effectivement, ça c'est une dimension du problème qui est fondamentale. Bien sûr, c'est bien sûr qu'on peut comprendre que des Français se disent « Ah, ils ont pris des risques, il aurait dû porter son masque de manière plus appropriée, il aurait dû respecter et n'aurait pas dû saluer le président du Conseil, Pedro Sanchez, espagnol, Premier ministre. » Voilà, il y a des petites choses comme ça, mais prenons-les de manière positive, je dirais, en se disant non pas « Oh, ben, ils se permettent tout et nous, on n'a pas le droit de
Sébastien,
le faire. »
Parce que c'est Sébastien pas ça, vous répond, Jean Garrigue.
Oui, non, mais je comprends très bien ce que veut dire M. Jean Garrigue là-dessus, je suis à peu près d'accord, mais ce qu'il y a, c'est que moi, j'ai du mal à comprendre, en fait, M. Sportouche parlait d'une réunion de travail. Oui, bien sûr, c'est une réunion de travail, de représentation, de je ne sais pas, mais je pense qu'ils sont quand même assez intelligents et assez fins pour comprendre qu'il y a des réunions, à mon avis, qui sont transposables, qu'on peut différer dans le temps, qui à mon avis sont moins importantes que d'autres. Ce genre de réunion, ce genre de repas le soir avec tant de personnes, je pense que c'est quelque chose qui aurait pu être différé loin dans le temps, un peu plus décalé, un petit peu ces effets de démocratie qui sont certes nécessaires, qui sont obligatoires, mais est-ce qu'on peut pas faire en sorte de les différer un peu plus loin, arriver à des périodes qui sont peut-être un peu moins tendues et faire fonctionner la démocratie certes un peu au ralenti, mais c'est pas des moments qui sont si importants que ça. C'est pas un conseil de guerre.
Je crois qu'on a bien compris l'essentiel de votre message et je vous en remercie. Jean Garrigue va rester avec nous parce que ce qu'il a dit fait réagir nos auditeurs et notamment Françoise. Bonjour Françoise.
Bonjour Pascal. Oui, donc je vais modérer mes propos, mais Monsieur Jean Garrigue, je comprends pas votre position. Que vous défendiez les ministres, ce qui s'est passé. Moi, j'ai 66 ans, je suis en train de perdre tous mes repères. Et moi, à Noël, je fais le choix avec ma maman de rester à deux, parce qu'elle a 98 ans, et j'ai pas besoin qu'on me dise ce que je dois faire. C'est mon bon sens personnel. Maintenant, comment voulez-vous que ce président et ses ministres restent crédibles? Ils sont dans l'incrédibilité totale. On nous demande d'avoir une position et de s'y tenir. Je ne parle pas des attestations et tout le reste. Hein. Le masque, le port du masque, le gel. Et eux sont à 3 mètres. C'est ça qui m'inquiète. Ils étaient à 3 mètres. Et donc, ils se sont contaminés en étant à 3 mètres.
Non. Là, non. Ils sont cas contact. Pour le moment, ils sont considérés comme cas contact. D'ailleurs, ce que vous disiez tout à l'heure, tous ne le sont pas.
Attendez, Pascal, on dit que le président n'a pas été bien cette nuit.
Non, mais c'était pas lié à ce dîner d'hier, puisque de toute façon, l'incubation, c'est 3-4 jours. Mais j'avais pas convoqué, si j'ose dire, Jean Garrigue pour qu'il se fasse engueuler, pardonnez-moi, c'est un peu trivial par les auditeurs. Mais Jean Garrigue peut vous répondre peut-être.
Non, mais écoutez, j'entends bien, mais je crois d'abord. Les précautions que nous avons à prendre, à mon sens, je me trompe peut-être, mais ce sont des gestes de civisme. C'est-à-dire qu'il faut penser à tous les autres. Et vous avez parlé notamment de votre maman, qui est très âgée, comme la mienne d'ailleurs, et pour laquelle on doit prendre un certain nombre de précautions. Maintenant, je peux aussi comprendre que de la part de ceux qui nous gouvernent et qui ont quand même des agendas très chargés, qui ont des obligations internationales, nationales, régionales, locales, tout ce que vous voudrez, je peux comprendre aussi qu'il y ait une prise de risque qui n'est pas la nôtre, parce qu'ils ont une vie qui n'est pas tout à fait la nôtre. Ils ont
Françoise,
des fonctions qui n'est pas tout
vous
à fait
partagez,
la nôtre.
Vous entendez?
Ah non, je partage pas du tout. On demande aux Français de faire des efforts. Il y a des gens qui vont être au chômage, des restaurateurs qui vont être sur la paille. Comment ils ont commis une bévue, ils en ont commis pas mal. Et moi, j'ai 66 ans, et là, je commence à être excédée par le comportement des uns et des autres. On perd tous nos repères, monsieur. Je suis désolée.
Benjamin Sportouche.
Françoise, dans l'exercice de leurs fonctions, comme le disait Jean-Garry, ils peuvent prendre quelques risques. Par exemple, le Conseil des ministres ne se tient plus avec l'ensemble des membres du gouvernement. Une partie est présente, une partie est en visioconférence. Mmh. Et bien évidemment que ne serait-ce que d'aller au Conseil des ministres...
Et c'est pas ça le problème, Benjamin, mais, pardonnez-moi. Oui, c'est pas une question de risque, c'est une question d'exemplarité sur un dîner hier soir en plein couvre-feu. C'est pas exactement ça.
Je redis, c'était un... Voilà, ce que dit l'Élysée, c'est un dîner de travail. Il n'y avait pas là une volonté de célébrer Noël ou quelque chose d'autre ou le Nouvel An entre amis ou entre familles. Il n'y a par exemple, il n'y aura pas par exemple de Noël de l'Élysée cette année.
Benjamin Sportouche, s'il y avait eu des cas contacts pendant le Conseil des ministres, il n'y aurait même pas de polémique. Il y a polémique. Pourquoi ? Parce qu'on apprend qu'il y a un dîner avec 11 personnes et tout le monde comprend immédiatement que ce dîner n'est pas essentiel à la République. Pardonnez-moi de le dire comme
ça. C'est ce que...
Donc c'est pour ça que les gens réagissent.
L'exécutif, en face, je vous dis juste ce qui est rapporté par cette source-ci gouvernementale, c'était un dîner de travail. Alors maintenant, on peut estimer indépendamment, individuellement, s'il y avait une raison de le faire, si ça justifiait ce travail, justifiait une réunion. Eux disent oui, nous avions des sujets importants à mettre
Françoise, dernier mot.
J'ai bien compris que les hommes politiques étaient au-dessus des lois. Voilà. Et ça, c'est un fait. Je suis désolée. Parce qu'ils sont... Alors Trump, il ne faut pas rire de Trump.
Là, pardonnez-moi, précisément, ce que vous dites factuellement, si j'ose dire, ce n'est sans doute pas vrai. C'est-à-dire qu'ils ont le droit de dîner autour d'une table. Ils ont le droit parce qu'ils ont des attestations pour le couvre-feu. C'est pour ça que moi, je me place sur un autre débat. Je me place sur l'exemplarité. Mmh. Ils ont le droit, mais le signe qu'ils envoient est-il le bon ? C'est autre chose. Mais le droit, ils l'ont hier soir. Ils ont le droit de dîner.
Et en plus c'est une recommandation de jauge. Je le rappelle.
Oui, mais vous aussi vous avez le droit d'être à 11 chez vous. Hein. Oui. C'est une recommandation, madame. Vous avez le droit d'être à 11 chez vous. Jean Garrigue, peut-être, et après je vais vous laisser, cher Jean. Vous êtes venu, vous voyez.
Non, mais là-dessus, vous avez tout à fait raison. La question de l'exemplarité, elle est fondamentale. On est dans une phase, on le voit bien, et c'est ce qu'exprime au fond cette dame. Il y a une délégitimation totale de toutes les élites, quelles qu'elles soient. On ne fait plus confiance aux hommes de pouvoir, quels qu'ils soient. Et donc, ils sont d'autant plus enclins, astreints à cette exemplarité dont vous parlez. En ce sens, c'est une erreur qui a été commise, incontestablement. Mais cela dit, ne remettons pas en question tout le travail qui est fait justement par ceux qui exercent le pouvoir, et ne tombons pas peut-être dans les excès d'un certain populisme qui voudrait que, par définition, chaque homme de pouvoir soit un pourri. Non, les choses sont quand même un peu plus simples.
Merci Jean Garrigue d'être venu et d'avoir porté de la mesure à ce débat, mesure qu'apporte également notre ami Benjamin Sportouche.
Juste quand même, Pascal, l'exemplarité c'est une grande notion. Ne sont-ils pas nos hommes politiques à l'image de ce que nous sommes, parfois aussi avec nos excès, nos imprudences? C'est aussi cela, peut-être, que la démocratie représentative. C'est une question que je mets dans le débat.
Mais il se trouve qu'ils nous demandent en permanence d'être exemplaires. Beaucoup de Français ont le sentiment qu'ils sont un poil infantilisés depuis quelques semaines, et qu'ils sont que les conditions de vie sont devenues rudes. Je vous rappelle qu'il y aura un couvre-feu le 31 décembre. Donc effectivement, quand une affaire comme celle-ci sort, forcément on entend la colère des auditeurs depuis 13h. A tout de suite, 13h39.
Les auditeurs ont la parole sur RTL.
Avec Pascal Pro.
Les auditeurs ont la parole sur RTL.
Avec Pascal Pro.
Il y a 13h41, je n'ai même pas eu le temps de saluer Greg Caradoni, tant cette émission est passionnante, grâce notamment à notre ami Benjamin Sportouche.
Bonjour à tous.
Mais
bonjour.
C'est vrai qu'on voit la fracture qui peut exister entre ce que disent les auditeurs, ce que disait notre ami Jean Garrigue, et c'est vrai que, évidemment, que tout cela n'a pas de conséquences pour la République, si j'ose dire. Mais l'image, l'exemplarité, c'est une question qui nous intéresse. Donc Elisabeth est avec nous pour en parler. Bonjour Elisabeth.
Bonjour Pascal.
Et merci d'être avec nous.
Oui, moi je rejoindrai un petit peu Jean Garrigue. Je ne veux pas polémiquer sur le fait du repas, parce qu'après tout, M. Macron, c'est le président qui a un pays à diriger. Puis on va dire qu'il y a surtout polémique, c'est surtout le fait que l'information a été relayée.
C'est-à-dire ?
Je veux dire, si personne n'avait parlé de ce repas de travail.
Ah oui, mais aujourd'hui, c'est impossible, Elisabeth.
Le problème, c'est que maintenant, avec les réseaux sociaux, avec Internet, tout se sait, donc tout est en permanence.
Mais vous le regrettez ?
Bah, pour descendre, oui, parce que quand je vois l'ampleur que ça prend actuellement pour la polémique, je me dis, ouais, franchement, on était plus tranquille quand on avait juste la presse papier, on n'était pas embêté comme ça.
Non, mais c'est vrai que ce type d'information aujourd'hui, je disais qu'on a bâti une société de l'autosurveillance. Et qu'effectivement, ça n'existait pas de la même manière il y a 40 ans. C'est-à-dire qu'on s'intéressait parfois aux grosses affaires, hein, aux affaires importantes des ministres ou des hommes politiques, mais on n'allait pas jusqu'à ce type de détails, peut-être, Benjamin Sportouche. Oui. Mais il n'empêche que c'est la société qui est
bien
comme
sûr.
Ça.
Bien sûr, vous savez, Elisabeth, c'est comme, il y a les supports et puis ce qu'on en fait, j'allais vous dire.
Oui, voilà, parce que là, c'est des journalistes, c'est le point, en l'occurrence, voilà, qui a sorti cette affaire.
Voilà, après, on pense
oui,
en effet.
Oui, mais maintenant, les Français, ils cherchent la petite bête aussi.
Ça,
non mais Elisabeth, vous êtes là pour donner votre point de vue, donc ce que vous dites est incontestable puisque vous le pensez.
Oui, oui, mais ça, c'est vrai que là, et puis en plus, on va dire que là, le fait que le président soit positif au Covid, ça arrive pile poil en plein programme de future vaccination. Il y en a certains qui jouent sur les réseaux, il y en a qui commencent déjà à polémiquer pour dire ouais, c'est encore un petit coup monté pour pousser les gens à se faire vacciner, mais. Franchement, je pense que le fait que le président soit positif au Covid, ça changera en rien la position hostile des Français envers le vaccin contre la Covid.
C'est mais parce que vous êtes hostile au vaccin, par exemple, Elisabeth ?
Ah non, moi pas du tout. Moi, j'attends mon tour pour me faire vacciner. Mais c'est vrai que quand je regarde dans mon entourage, ben c'est majoritairement un non franc à la vaccination.
Ce qui nous étonne toujours d'ailleurs, parce que c'est quand même un progrès, me semble-t-il, de se faire vacciner. Et en tout cas, c'est aussi penser aux autres, forcément, lorsqu'on sera immunisé. Merci Elisabeth. Fabienne
merci
est là
bien,
aujourd'hui. Bonjour Fabienne.
Bonjour Monsieur Pro.
Merci d'être avec nous.
Bonjour à vous et à votre équipe.
Eh bien, c'est gentil, bonjour. Vous habitez la Savoie.
Bonjour. Oui, monsieur. Je me permets de vous appeler parce que, enfin, je vais essayer de trouver les mots justes. Je suis assez troublée depuis un certain temps par le ton, je dirais, entre guillemets, irrévérencieux dont on parle de nos gouvernants et de leurs actions. Voilà. Ça, c'est déjà un point. Ça me trouble beaucoup dans ce pays de tolérance et d'intelligence. Deuxièmement, je pense que M. Macron, en mangeant avec quelques collaborateurs, il n'y en avait pas 300 non plus, n'a pas voulu se sabrer, entre guillemets, n'a pas voulu mettre sa propre vie en danger, ni celle de ses collaborateurs. D'après ce qu'on a compris, ils étaient dans une salle suffisamment spacieuse. Moi, je mange tous les jours à 4 sur une petite table, voilà. Et je pense qu'ils savent ce qu'ils font et que même en admettant qu'ils aient commis une erreur d'appréciation, c'est pas pour autant qu'il faut les vouer aux gémonies. Et voilà.
Bah écoutez, Fabienne, vous avez trouvé les mots, hein, ils sont parfaits pour résumer votre pensée. Et ce que vous dites sont des paroles de mesure, elles sont incontestables. Hein. D'ailleurs, simplement, depuis le début de l'émission, d'autres voix se sont exprimées pour parler de cette exemplarité et de la recommandation, parce que c'est ça qui est aussi important. On nous recommande d'être à 6. Je le répète, et hier soir, il y a un dîner à 11. Et on ne sort quand même pas de cette problématique. Merci Fabienne, il est 13h46. Nous marquons une pause. Alors, il n'y a pas de cadeau aujourd'hui, parce qu'on n'a pas fait la chanson de Noël, Greg.
Oui, je sais, mais on le fera demain. Il y a un cadeau magnifique. Un cadeau magnifique, mais ce sera demain. En revanche, aujourd'hui, il y a quand même...
Chaque
auditeur qui passe sur l'antenne remporte un cadeau, vous le savez.
Ah oui.
Et vous savez ce que c'est ?
Non, je ne savais pas.
Écoutez, Isabelle...
À l'occasion des fêtes de Noël qui approchent, RTL offre à tous les auditeurs qui passent à l'antenne cette semaine un lot de chocolat Jeff de Bruges. Chaque lot contient les meilleures recettes gourmandes Jeff de Bruges.
Regardez Benjamin salive.
Mais oui, Benjamin est gourmand.
Première nouvelle.
Il aime le chocolat. Est-ce qu'on aura quand même le droit à notre petite chanson de Noël ?
Bien sûr, on me fera ça.
13h55, 56, 57 quand même.
Ce sera parce parfait.
Pour saluer le départ peut-être de Benjamin, voilà. Puisqu'il ira déjà.
Je mettrai une chanson triste alors.
Ah, bah oui, c'est vrai. Bon, 13h47. D'ailleurs, Benjamin, vous avez qui? C'est le dernier grand jury dimanche.
De la saison. Martin Hirsch, le patron des hôpitaux d'assistance publique des hôpitaux de Paris. Hein. Vous savez qu'il est là sous sa responsabilité beaucoup d'hôpitaux. Et donc, on va beaucoup l'interroger sur la vaccination. Est-ce que les hôpitaux sont prêts? Comment vont-ils se mobiliser? Et puis, où en est la situation sanitaire dans les hôpitaux d'Île-de-France?
Donc, ensuite, il n'y aura pas de grand jury entre Noël et le 1er de l'an.
Voilà, je vous abandonne juste une semaine et on se retrouvera le 3 janvier. Ça revient
donc, il
n'y
a qu'un
vite.
Dimanche où vous ne serez pas là. Oui. Et le 3 janvier, vous savez déjà qui vous aurez?
Non, pas encore. J'explore. Si vous avez des suggestions, vous me dites.
Bah, écoutez, le président de la République, pourquoi pas?
Oui, mais il n'aura pas les deux jours avant à tous les Français. Vous savez,
c'est 31 vrai. 13h48.
Les auditeurs ont la parole.
Pascal Praud sur RTL.
Pascal Praud.
Les auditeurs ont la parole sur RTL.
Et les auditeurs, une contre-réaction s'est mise en place, parce que les premiers auditeurs étaient plutôt en colère, et maintenant, depuis 13h30, c'est au contraire des auditeurs qui disent, voilà, ça suffit, c'est pas très grave, ce qui s'est passé n'est pas si important que cela. C'est en tout cas, j'ai l'impression, le sens de ce que va nous dire Philippe. Bonjour Philippe.
Pascal, bonjour.
Bonjour, vous êtes commerçant, Philippe, à Lille.
C'est ça.
Bon, vous nous écoutez depuis 13h.
Voilà.
Quel est votre sentiment?
Moi, je vous appelle parce que j'étais un peu énervé par ce que j'entends. Je vais défendre un peu le président. Je le défends pas toujours, mais là, je vais le défendre. Je pense que de par sa fonction, il a le droit et même le devoir de continuer à travailler, même en raison de la crise du Covid. Je pense qu'il préside à la destinée de la France. Hein, il ne peut pas se permettre de ne pas répondre à toutes les sollicitations. Il peut pas mettre son agenda en suspens. C'était pas un repas festif. Il était là pour travailler. Et je pense que des repas de ce type, dans un cadre de travail, il en fait souvent. Et on n'est pas au courant. Là, c'est parce que on a su qu'il avait le Covid. Sinon, on n'aurait rien su. Donc, il a pas commis d'actes délictueux. J'entends parler d'exemplarité. Excusez-moi, il n'a pas tapé dans la caisse. Hein. Il a simplement travaillé.
Vous avez parfaitement raison. Simplement, dans le climat, je l'ai dit, qui est assez rude, d'injonction perpétuelle depuis de nombreuses semaines, c'est vrai que c'est apparu, en tout cas parmi les premiers auditeurs, comme, faites ce que je dis, mais ne faites pas ce que je fais. Je le répète, c'est la recommandation, c'est des dîners à 6.
Ce ne sont pas des injonctions, juste pardon, ce sont des recommandations.
Vous avez raison.
Et c'est important les mots.
On
n'a jamais eu un gouvernement qui s'est dit, il faut que vous soyez 6, sinon on va vous sanctionner. Ce n'est pas possible. C'est du domaine des libertés, de la liberté de chacun. C'est peut-être, et vous avez raison, symptomatique d'une société à vif en ce moment. Oui, tout cela.
Mais je ne sais pas, moi, comment ça va réagir dans l'opinion.
C'est aussi le fonctionnement. Oui, c'est pour ça, on verra bien. Mais le président de la République, en ce moment même, et je peux vous le dire, puisque l'Élysée me le confirme, il travaille, il a une visioconférence, donc ses symptômes ne sont pas, les symptômes qu'il a pu avoir ne sont pas éventuellement invalidants. Il continue à travailler, il va multiplier les réunions en visioconférence.
Bon, Philippe, vous sentez cette société à vif, peut-être?
Mais moi, je pense que l'argument de l'exemplarité, je pense qu'on reproche ça au président Macron dans ce cas-là, parce que l'argument du roi soleil, de Jupiter, d'hommes au-dessus de tout le monde remonte souvent à la surface. Donc là, je pense que on saisit cette occasion pour dire, vous voyez, il se considère encore au-dessus de tout le monde. Je pense que c'est pas le cas. Je pense que c'est son obligation.
En tout cas, ceux qui veulent l'attaquer serviront cette petite musique.
Écoutez, je pense que oui, je pense qu'ils vont pas s'en priver.
Enfin, juste, pardon, à ce stade, alors nous parlons à 13h55, l'opposition ne reproche pas au gouvernement et au président de la République pour l'instant cette réunion de travail. On va voir si c'est le cas dans les heures à venir, mais pour l'instant, il y a plutôt, c'est plutôt sur le fait que le président est malade, et même l'opposition, lui adresse ses vœux de bonne convalescence et de bon rétablissement. Voilà ce qu'on entend à ce stade.
Bon, est-ce que vous porterez le masque à Noël? Parce que c'était une de nos autres questions, Philippe, aujourd'hui.
Écoutez, moi, je pense que je vais réveillonner en très petit comité. Je ne sais même pas si je vais réveillonner. Donc, si j'ai un peu de monde, je le porterai. Sinon, si je suis tout seul, non.
Oui, ça, si vous êtes tout seul, vous n'êtes pas obligé de le porter. Mais peu de monde, ça serait combien de personnes?
2-3.
Ah oui, c'est vraiment limité. C'est-à-dire que vous êtes dans une... D'habitude, vous êtes combien à Noël?
D'habitude, nous sommes pas tellement 5-6. Mmh. Mais dans tous les cas, j'aurais respecté les recommandations parce que il y en a marre d'être confiné. Et, même si c'est Noël, même si c'est un moment festif, il faut savoir être prudent.
Vous savez, même le gouvernement est sur une ligne de crête. J'allais vous dire, prendre un exemple très concret. Jean Cazex doit aller au Tchad la semaine du 31, vous savez, pour passer le réveillon avec les soldats. Bon, normalement, vous savez, c'est le moment où tous les soldats sont réunis, de la base, sont réunis autour de l'invité politique qui est là, ou en tous les cas du président l'année dernière et le Premier ministre cette année. Bon, certainement qu'il va réduire ses interactions, mais beaucoup de soldats vont vouloir venir le voir. Donc, vous voyez, c'est aussi dans la représentation.
D'ailleurs, le président de la République, son risques. Agenda est modifié, sans doute. Il y avait des voyages qui étaient prévus.
Oui, oui, il devait aller au Liban, il n'ira pas au Liban. Voilà. Voilà l'impact direct que ça a. Donc, oui, je pense aussi que, clairement, dans l'exercice de leurs fonctions, ils peuvent se retrouver à prendre davantage de risques que nous, et ils font tout, la plupart du temps, pour les limiter.
Eh bien, je vais remercier Benjamin Sportif d'avoir été durant cette première heure avec nous. Philippe Moreau-Chevrolet va être là, il est expert en communication politique et il va pouvoir peut-être décoder cette séquence, quelles conséquences dans l'opinion publique, même si j'ai envie de dire un buzz chasse l'autre aujourd'hui et que tout sera peut-être évanoui dans 48 heures. Je disais à Greg que nous n'avions pas eu notre petite chanson de Noël et peut-être avant d'entendre le flash, pour nous mettre un peu en joie,
bien
et retrouver l'esprit de Noël. Qu'est-ce que vous avez trouvé?
Alors, j'ai choisi un extrait de la bande originale du film « Maman, j'ai raté l'avion ». Il s'appelle « Holy Night ». C'est très doux. C'est très Noël.
Et très apaisant.
C'est minuit chrétien.
Exactement.
C'est minuit chrétien.
Divin enfant.
Minuit chrétien.
Attendez, on peut écouter un peu?
Dans toutes les églises de France et de Navarre, j'ai entendu ça les soirs de Noël. La délivrance, voici le Rédempteur. Noël.
Il connaît bien ses classiques, Pascal.
Il les connaît par cœur.
C'est quasiment un cantique, Minuit chrétien, cher ami. Merci, ami.
Merci.
Je salue l'ami Sportouche, qui, hélas, nous quitte toujours un peu douloureux.
On se reverra.
On se reverra, me dit-il.
À bientôt.
À bientôt, la pub.
Jusqu'à 14h30,
les auditeurs ont la parole sur RTL
avec Pascal Pro.
Il est 14h.
Les auditeurs ont la parole sur RTL.
Avec Pascal.
Et avant de retrouver Olivier Bois, Jacqueline est déjà avec nous. Vous êtes en colère, Jacqueline?
Un petit peu, oui, parce que je pense que démocratie et exemplarité sont deux mots très importants.
Eh bien, vous allez nous expliquer ça dans une seconde. Olivier Bois.
Le flash, Emmanuel Macron, positif au coronavirus, va s'isoler pendant 7 jours. Il a passé un test PCR après avoir ressenti les symptômes de la maladie. Mais son état de santé, c'est ce qu'on indique à l'Élysée, lui permet d'assurer ses fonctions à distance. Jean Castex lui est négatif, mais il va rester également à l'isolement parce qu'il a dîné hier soir avec le président Macron et avec d'ailleurs divers responsables politiques de la majorité, notamment François Bayrou ou encore Christophe Castaner. On y revient dans un instant. Le président de la République qui a vu également beaucoup de dirigeants européens cette semaine au Conseil européen. Résultat, les premiers ministres belges, espagnols et portugais se mettent eux aussi à l'isolement. L'Allemagne, frappée de plus en plus durement par la seconde vague de Covid, 30 000 cas hier, c'est un record là-bas, alors que la campagne de vaccination pourrait commencer pour tous les pays européens le 27 décembre. C'est en tout cas l'objectif de la France. À Marseille, Samia Ghali votera bien pour Benoît Payan pour être le prochain maire de Marseille au cours du conseil municipal prévu lundi. Michel Rubirola a démissionné, c'est elle-même qui souhaite voir Benoît Payan la remplacer. Le quintet à Deauville, l'arrivée provisoire à l'instant, le 5, le 4, le 16, le 7 et le 8. Et puis la météo de demain des Cévennes au Languedoc, les pluies seront encore d'actualité. Sur le reste de la moitié sud, le soleil s'imposera. Sur la moitié nord, ce sera de la grisaille.
jusqu'à 14h30.
Les auditeurs ont la parole sur RTL.
Avec Pascal Pro.
Jacqueline qui habite dans les Yvelines. Elle est là encore quelques secondes, Jacqueline, avant que je vous donne la parole. Laurent Tessier.
C'est l'information de la matinée. Emmanuel Macron positif au Covid-19. Le président va devoir s'isoler 7 jours jusqu'au réveillon. Plusieurs tests ont été effectués.
Il l'a fait car il a ressenti les premiers symptômes. Fatigue, toux, fièvre, maux de tête ou perte de l'odorat. L'Élysée ne donne aucune précision à ce stade. On ne sait pas non plus où le chef de l'État a été contaminé.
Emmanuel Macron continuera de travailler et d'assurer ses activités à distance. Dans la liste des cas contacts, il y a notamment le Premier ministre Jean Castex, l'épouse du chef de l'État Brigitte Macron, mais aussi Richard Ferrand, le président de l'Assemblée nationale. Que disait-il d'ailleurs fin octobre chez nos confrères d'Inter ?
Nous sommes malades demain, c'est parce qu'à un moment donné, nous n'aurons pas fait aussi attention que nécessaire. Ça veut dire que on ne s'est peut-être pas suffisamment lavé les mains, que l'on n'a peut-être pas suffisamment gardé le masque. Chacun d'entre nous doit être en vigilance pour les autres et pour soi-même, en survigilance. Et c'est quand on se relâche qu'en effet, eh bien, on laisse ce virus nous attaquer. C'est une question de responsabilité.
Ah oui, le leader de la France insoumise, Jean-Luc Mélenchon, a participé mardi à un déjeuner à l'Élysée avec les présidents des groupes de députés en présence du chef de l'État.
Je suis bien soulagé parce que le président me fait savoir que je ne suis pas qu'à contact. Sauf qu'à la fin, je commence par fatiguer avec cela parce que la fois d'avant, je me suis trouvé dans une situation comme ça, c'était avec M. Castex. Alors là, on était restés quand même à 1m50 tous les deux, mais pendant près de 2 heures en tête à tête. Il avait été qu'à contact, on s'en est sorti. Mais je crois que je vais éviter de retourner dans les palais nationaux, c'est dangereux, voyez-vous.
Et puis, il y a eu ce dîner de travail hier soir à l'Élysée avec 11 personnes et les ténors de la majorité de La République En Marche et du Modem. Pas de polémique pour le politologue Jean Garrigue.
Un petit risque qui a été pris par le président de la République, mais comme tous les Français en prennent, dans un rôle de représentation, faut pas l'oublier, qui est celui du chef de l'État. Et ben, y a forcément des contacts sociaux qui se produisent.
Alors nos politiques s'exposent-ils trop? Respectent-ils les gestes barrières, la distanciation physique? Montrent-ils le bon exemple? Le député de La République En Marche, Patrick Vignal, était l'invité de l'émission hier. Si certains ne l'ont pas fait avec le masque, les politiques doivent montrer l'exemple, notamment avec le vaccin.
Nous, la classe politique, nous devons être en première ligne et nous devons, nous d'abord, nous faire vacciner.
Pas sûr que François Baroin, le président de l'Association des maires de France, partage cet avis.
Alors moi, j'ai un problème, c'est que je suis hypochondriaque, donc je me méfie de tout, y compris des vaccins.
Et ni Nicolas Dupont-Aignan, président de Debout la France.
Je ne suis pas un cobaye.
Avec nous, Philippe Moreau-Chevrolet, expert en communication politique et auteur de la bande dessinée Le Président aux éditions des Arènes.
Et il bonjour. Va nous dire bonjour, monsieur Moreau-Chevrolet, vous nous direz, à votre avis, les conséquences de cette séquence. Mais Jacqueline est avec nous et je la remercie d'avoir patienté quelques secondes. Vous disiez, Jacqueline, que vous étiez choquée.
Oui.
Pourquoi ?
Bah, je suis choquée pour plusieurs raisons. La première, c'est que j'entends sur votre antenne et sur d'autres antennes qu'il s'agissait d'un dîner de travail. Pardonnez-moi, je ne peux pas penser qu'il s'agit d'un dîner de travail. C'est de la communication, c'est de la politique, mais c'est tout sauf un dîner de travail. Parce que si c'est un dîner de travail, dans ces cas-là, Monsieur Ferrand, je ne pense pas que ce soit un collaborateur de Monsieur Macron. Et si Monsieur Ferrand était invité, on aurait dû avoir son homologue du Sénat de l'autre côté. Ce qui n'était pas le cas. C'était uniquement des représentants de la majorité qui était là autour du président. Alors qu'il fasse de la politique, ça me paraît tout à fait normal. Maintenant, on demande aux entreprises le télétravail, les visioconférences, etc. Ce que j'expliquais tout à l'heure, c'est que c'est très compliqué, par exemple, pour un commercial de vendre quelque chose par téléphone ou en visioconférence, etc. Ce serait beaucoup plus simple pour lui d'être autour d'une table, d'un bon repas et de pouvoir parler de ces choses-là avec ses clients. Mais il peut pas le faire, lui. Les restaurants, ils sont fermés. Les bars, ils sont fermés. On nous a dit que c'était parce que c'était l'endroit où on se contaminait le plus. Donc moi, je voudrais savoir si c'est essentiel que le président de la République mange effectivement à 10, 11 ou je ne sais combien à l'Élysée, même s'il y a des distances qui sont respectées, etc. On ne peut pas d'un côté faire la leçon aux Français et leur demander des efforts qu'ils respectent et de l'autre côté faire exactement l'inverse. Donc là, il y a quelque chose qui est terriblement choquant. Il est le chef de l'État, de tous les Français. Donc c'est à lui de nous montrer le chemin et l'exemple. Donc,
Philippe Moreau-Chevrolet vous répond, Jacqueline.
Oui. Alors moi, je suis entièrement d'accord avec vous, Jacqueline. Je pense qu'il y a un problème d'exemplarité, mais depuis le début de la crise, ils ont mis beaucoup de temps à porter les masques, nos dirigeants. Le chef de l'État, on l'a vu au Liban faire des bains de foule avec les gens en plein milieu de l'épidémie. Donc oui, il y a un problème. Ils se sentent au-dessus de... Ils se sentent pas forcément au-dessus des autres, mais ils se sentent un peu comme des super-héros, quoi, avec des super-pouvoirs.
Bah, oui, mais non. Non,
et ils ont un peu déconnecté parfois de la réalité. Et la maladie a cette... Voilà, c'est un drame, une tragédie épouvantable, mais en même temps, elle nous met tous à égalité parce que voilà, c'est comme le sommeil. Hein. On disait du sommeil que ça mettait même les plus puissants sur leur dos. La maladie, c'est pareil, ça rend malade tout le monde et elle ne fait pas de différence. Et ce qu'il faut en retenir, à mon avis, c'est qu'il faut appliquer les gestes barrières et ne pas suivre l'exemple du chef de l'État.
Ah, mais je suis tout à fait d'accord avec vous. Je crois que c'est très, très important. Et je pense que d'ailleurs, en fait, j'espère que les médias ne vont pas cesser de relayer ce message parce qu'effectivement, il ne faudrait pas penser que parce qu'effectivement, il y a eu une absence de respect des gestes barrières du côté de l'Élysée ou ailleurs, j'en sais rien. Pour autant, il faut arrêter parce que je pense que c'est ça qui nous sauvera. Moi, j'ai pas du tout envie de retomber dans une troisième vague ou quoi que ce soit. Je veux vraiment qu'on se protège. Je veux vraiment qu'on profite de toutes les avancées de la médecine, justement, pour pouvoir s'en sortir. Mais ça, il faut qu'il y ait de l'exemplarité. Et si à la tête de l'État, y compris pour les vaccins, etc., on nous dit pas ce genre de choses, eh ben, c'est sûr qu'on est un peu timoré, qu'on a peur, etc. Donc, il faut vraiment pousser au maximum l'exemplarité. Et je pense que les dîners, que ce soit à l'Élysée ou les déjeuners, que ce soit à l'Élysée ou pas, ou ailleurs, on peut très bien s'en passer. Si nous, on se passe de restaurant, je pense qu'à la tête de l'État, ils peuvent se passer de déjeuner ou de dîner. Excusez-moi.
Merci,
et
Jacqueline.
Surtout quand il s'agit de politique et pas du tout d'autre chose.
Merci, Jacqueline. On va marquer une première pause. Et puis, c'est vrai que ça va être intéressant d'imaginer les conséquences. Je disais tout à l'heure, un buzz chasse l'autre. Est-ce que ce sera encore le cas ou est-ce que ça va entrer dans la tête des Français et peut-être en tiendront-ils rigueur au gouvernement? À tout de suite.
Pascal Pro, les auditeurs ont la parole sur RTL. Les auditeurs ont la parole sur RTL.
Avec Pascal Pro.
Philippe Moreau-Chevrolet va pouvoir répondre, bien sûr, notamment à Jacqueline. Moi, ce qui m'intéresse, c'est, je dis un buzz chasse l'autre souvent. Bon, quelles sont les conséquences de cette séquence?
La séquence va durer 7 jours, puisqu'il va être malade pendant assez longtemps. Ensuite, il va y avoir le traçage de tous les cas contacts. Donc là, on est en train de dérouler la liste des très, très nombreux invités qu'il a eus. Donc ça va faire une autre séquence médiatique. Et puis après, il y a le problème de l'exemplarité. Et on mémorise effectivement très bien, on en discutait hors antenne, on mémorise très bien ce type d'événement. C'est-à-dire qu'en gros, on va associer directement le dîner et le déjeuner à la contamination, même s'il a été probablement contaminé 4-5 jours avant. Et donc, ça va être dans l'esprit des gens lié. Ça va être un exemple de plus du... En gros, moi, j'ai reçu ça beaucoup sur Twitter. Hein. Faites ce que je dis, pas ce que je fais. En gros, c'est ça hein, qu'on retient. Et ça, c'est dramatique pour lui. Pourquoi? Parce qu'on est à deux doigts de la vaccination. Il faut regagner la confiance du public pour les amener à se vacciner. Il faut arriver à travailler les Français pour qu'ils comprennent qu'on va s'en sortir. Ça renvoie pas le bon message. Et puis, excusez-moi, Pascal, c'est hallucinant. Après 9 mois de crise, sachant qu'il y a des gens assez âgés dans les gens qui ont dîné chez ou déjeuné chez Macron, c'est hallucinant qu'on se réunisse encore à déjeuner ou à dîner. Les totalités des restaurants français sont fermés. Vous imaginez la tête des restaurateurs? Ça n'est pas acceptable en démocratie, ça.
Bah écoutez, vous êtes...
Je suis plus énervé que vos auditeurs.
Oui, vous êtes. C'est intéressant ce que vous dites parce qu'effectivement, on a eu Jean Garrigue tout à l'heure qui était sur un autre registre. Évidemment, Benjamin Sportouche était plus sur le factuel. Mais donc, c'est intéressant d'entendre l'expert en communication que vous êtes. Bonjour Françoise.
Bonjour.
Et merci d'être avec nous. Vous nous écoutez depuis 13 heures.
Oui. Alors, j'écoute assidûment et j'ai quelque chose à dire qui est un peu spécial par rapport à tout ce que j'ai entendu. D'abord, je suis effarée par le mot « donner l'exemple ». Mais donner l'exemple, mais attendez, mais je rigole toute seule. Parce qu'il faut... Comment dire, nous sommes des adultes. Nous sommes des adultes. On a besoin d'avoir un exemple. On a besoin d'avoir des exemples. On ne fait pas faire les choses sans avoir un exemple. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Monsieur Macron, c'est le Dieu tout-puissant et que c'est lui qui va...
Non, ça veut dire qu'un entraîneur de football vis-à-vis de son vestiaire, il doit être exemplaire, qu'un chef de service dans une entreprise doit être exemplaire aussi, et que toute fonction de commandement réclame un certain prestige, parfois un certain éloignement, comme disait le général de Gaulle, et ouais, également une forme d'exemplarité. Voilà, ça fait partie pour manager les hommes, pour les conduire bien. toi-même, tu dois être sans reproche, idéalement.
Ah d'accord. Bon, bah, moi, vous le voyez de cette façon. Moi, je ne le vois pas du tout comme ça parce que je suis quelqu'un de... je suis très terre-à-terre. Je prends mes décisions toute seule. J'ai besoin de personne, ni même de celle du président. Bientôt, on va lui imputer le Covid. On va dire que c'est lui qui l'a créé, si ça continue. Hein. Non, mais je vous assure, c'est ce qu'on ressent. J'ai pas plus d'amour pour lui que pour un autre ou d'affection ou quoi que ce soit. Je n'ai fait même pas de politique, monsieur. Mais je suis effarée par la façon dont les gens le traitent aujourd'hui. Parce que c'est tout à fait inhumain ce qui se passe aujourd'hui.
C'est-à-dire, Françoise?
Les gens, ils se ruent sur la moindre information, ils s'enferment, ils brodent autour, et il faut bien attaquer le président, puisque qu'il n'y a que lui à attaquer. C'est lui qui donne l'exemple, alors on doit faire ce qu'il dit. Mais ce n'est pas vrai, il n'y a personne qui fait quoi que ce soit. Il n'y a personne qui suit les exemples. Je ne connais personne. Les gens font ce qu'ils veulent, et ils le disent haut et fort.
Non, ça, ce n'est pas vrai, je ne suis pas d'accord avec vous. Je trouve que les Français sont très disciplinés, au contraire. Ah, et qu'ils acceptent, par exemple, sur le 24 décembre, il y a beaucoup de gens qui... seront en comité restreint, hein, je vous assure, Françoise. Et pour tout vous dire, c'est aussi une des leçons de cette longue période, c'est qu'on disait toujours les Français sont indisciplinés, etc. En fait, ils acceptent plutôt bien, ils sont plutôt résilients, ils font plutôt bien les choses, globalement, hein, globalement. Et je suis frappé par ça. Mais Philippe Chevrolet, Moreau Chevrolet va vous répondre.
Je comprends que vous ayez le sentiment qu'on tape beaucoup sur le chef de l'État, parce que c'est le cas en fait. Comme il concentre beaucoup les pouvoirs, et comme lui en particulier, Emmanuel Macron délègue très peu et concentre beaucoup, du coup il est très attaqué. Mais c'est en quelque sorte lui qui s'expose, et c'est ça qui fait qu'on l'attaque, vous voyez ce que je veux dire. Il n'y a pas beaucoup de gens autour de lui finalement pour prendre des coups, en dehors de son Premier ministre, qui lui sert de paratonnerre plutôt bien, puisque Jean Castex... Et encore plus attaqué que lui, il perd en popularité beaucoup, donc il sert un peu de bouclier, si vous voulez, au chef de l'État. Mais ça le protège pas complètement. Et là, en l'occurrence, il aurait dû être beaucoup plus prudent, parce que le problème, c'est que il n'y a pas que lui qui est contaminé. Du coup, il y a plein de gens qui vont devoir se mettre en réserve, en gros, de la République pendant 7 jours. Et ça pose un vrai problème de sécurité de l'État, parce que s'il est vraiment malade, on est obligé de s'interroger, si vous voulez, sur le fait qu'il pourrait avoir une forme grave. Parce que s'il a une forme grave, c'est quand même lui qui est en charge de la sécurité nationale. Et puis son épouse est une personne fragile, donc on est forcé de s'interroger sur son épouse en se demandant si elle n'est pas très malade, et puis est-ce que l'Élysée est devenue un cluster. Enfin bref, pour une petite précaution qu'on pouvait prendre, qui était de faire comme tous les Français, si vous voulez, ne pas manger à 15 autour d'une table et prendre vraiment des précautions.
Il n'a pas été contaminé hier soir, attention.
Non, il a été. Non, mais je veux dire,
il n'a pas été contaminé hier soir.
Mais bon, il a plusieurs problèmes. Il est très tactile. Donc, la distanciation pour Macron, c'est pas la distanciation.
Il la respecte. Là, on le voit très souvent faire le signe quand il salue les uns et les autres.
Il a tendance à toucher comme les gens. Enfin, je veux dire, il est comme ça, quoi. C'est comme un Italien. Il est italien de ce côté-là, Macron. Il a besoin de ses mains. Voilà.
Bon, 14h17, on marque une nouvelle pause. À tout de suite.
Les auditeurs ont la parole.
Pascal Pro sur RTL.
Les auditeurs ont la parole sur RTL.
Avec Pascal Pro.
Quelques minutes encore de discussion avec Philippe Moreau Chevrolet. Nous sommes avec Daniel. Bonjour Daniel, qui habite en Loire-Atlantique.
Oui, bonjour Pascal Pro. Écoutez, moi tout ça me fait un petit peu réagir. Et je vais aller peut-être dans le sens de la personne précédente, si ce n'est amener peut-être une autre façon de voir les choses. C'est que le président est un homme comme tout le monde. Nous avons des droits, mais nous avons aussi des devoirs. Entre autres, le chef de l'État. Il faut quand même bien comprendre que c'est pas le repas ou la réunion d'hier qui lui a fait attraper le Covid. Le Covid, il y a un certain temps d'incubation, avant et après, bien entendu. Il faut remonter un petit peu plus haut, et il faut avoir l'esprit, je vais pas dire un petit peu plus large, mais plus ouvert, et arrêter de tirer sur l'ambulance, si je puis dire. Alors, dans le sens de cette phrase où vous employez ce genre de phrase, faites pas ce que je dis ou faites pas ce que je fais, je ne sais plus, je ne sais même plus dans quel sens
sais, vous voyez à quel point ça me...
Faites
ça me
ce que je dis, ne faites pas ce que je fais.
Ouais, faites ce que je dis, ne faites pas ce que je fais. Ben oui, faites ce que je dis, ben bien sûr, c'est normal, c'est son boulot. Ne pas faire ce qu'il fait, et après tout, pourquoi ? Mais maintenant, le français, contrairement à ce que vous pensez, contrairement à ce que vous dites sur l'antenne, le français est une indiscipline... incommensurable, qui est ingérable. Le français fait ce qu'il veut, quand il veut, avec qui il veut. Et le français se croit au-dessus de beaucoup de choses. Bah, il est capable d'attraper le Covid aussi.
Voilà. Bah, d'abord, il est possible que vous ayez raison. Moi, j'ai le sentiment que les gens respectent le couvre-feu. Écoutez, hier soir, moi je sors aujourd'hui à 21h parce que mon travail, j'allais dire, m'oblige à sortir à 21h. Dans les rues de Paris, il n'y a personne. Je constate qu'il n'y a personne. Bah, les gens sont disciplinés.
Bah, oui, ils sont disciplinés dans ce sens-là.
Bah, oui.
Mais après, ça ne les empêchera pas de se retrouver à 10, 15 ou 20 chez
eux. Bah, écoutez, non, moi, je n'ai pas le sentiment, je vous assure, que les gens sont à 10 ou 15. Ça peut arriver.
Mais c'est... Arrêtez de faire de l'angélisme.
Mais Daniel, vous, vous avez fait un dîner avec 10 personnes depuis un mois ?
Non, parce que...
Bon, bah alors. Et vous connaissez une personne qu'on a fait ?
Pas spécialement.
Et moi, je connais personne qui a fait un dîner avec 15 personnes. Hein.
Évidemment, je tombe dans une période où j'étais en plein déménagement. Je suis venu...
Mais vous l'auriez fait autrement, Daniel ? Vous, par exemple, vous trouvez que vous êtes discipliné ou indiscipliné ?
Je ne suis ni discipliné ni indiscipliné. Je fais attention.
Vous êtes plutôt discipliné, manifestement. Vous acceptez plutôt les mesures.
Dans le sens, bien sûr.
Et bien, pourquoi voulez-vous que les gens ne soient pas comme vous ?
Oui, bien sûr, mais il faut pas que vous disiez, vous, que les gens respectent tout. C'est pas vrai.
Je dis pas ça non plus. Sont plus disciplinés et plus résilients qu'on ne le pense. En tout cas, merci Daniel, vraiment merci de ce témoignage. Il reste quelques secondes et on va conclure. Ce qui m'intéresse, moi, vraiment, Philippe, c'est... Quelles conséquences ? Voilà, c'est ça qui... est-ce que ça va une nouvelle fois attaquer les élites sur le thème, voilà, ils nous demandent de faire ça et ils font le contraire. Est-ce que ça va perturber, pourquoi pas, le gouvernement au point où ça peut l'ébranler ? Quel est votre avis en ce début de séquence ?
Ça risque de l'éloigner un peu plus de l'électorat populaire, parce que ça va montrer une fois de plus qu'il y a une élite qui mange entre elles, alors que nous, on nous demande à Noël d'être que 6, etc., ce que vous avez souligné. Donc ça ne produit pas un impact positif, forcément. Après, est-ce que c'est durable ? Il est à un niveau de popularité assez haut, il est à 40%, ce qui est bien pour lui. Donc pour l'instant, il n'a pas encore pris trop de coups dans cette histoire, donc voilà, ce n'est pas encore trop grave. Je pense que 2022 va être un peu compliqué quand même, parce qu'avec un million de chômeurs en plus...
Il y aura 2021 avant.
Il y aura 2021 un peu, mais 21, mais les régionales, on ne sait pas très bien quand elles auront lieu, si elles auront lieu. Ils projettent de les déplacer après les présidentielles. Et l'échéance que lui regarde, c'est la présidentielle. C'est là où c'est important, votre question, parce que le rapport avec les Français, ça va être déterminant. Il n'a plus la gauche en réserve. Il vise l'électorat de droite, mais l'électorat de droite va peut-être pas être très content de cette situation. C'est peut-être pas tellement même ce qui se passe qui est problématique, c'est le désordre. Alors qu'on attend de l'ordre et on attend que la vaccination se mette en place, ça crée du bruit inutilement.
Ben merci Philippe Moreau, Chevrolet. Je vois que notre ami Flavie Flamand est déjà dans la régie et je la salue. Il est 14h25. Laurent Tessier nous donnera le verdict à la question que nous posons, comme tous les jours. Et je vous remercie grandement. C'est une émission très intéressante, vraiment à écouter et à faire. Merci à Greg Caranoni. Merci à Laurent Tessier, bien sûr. Et puis à Cyranouche, à Olivier, à Evan et à Pierre-Louis qui sont aujourd'hui, une nouvelle fois, présents au Standard. À tout de suite.
Pascal Praud. Les auditeurs ont la parole sur RTL.